Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Et bonjour Florian.
La crise du coronavirus a mis en lumière le rôle des experts et a renforcé l'autorité des dirigeants politiques à leur côté, à leur écoute, pardon. A contrario, on a vu les dirigeants populistes gérer l'épidémie de manière erratique. Peut-on miser sur le reflux de la vague populiste pour cause de coronavirus?
C'est une question qui est beaucoup débattue en cette rentrée. Le fait que les pays dirigés par des leaders populistes, en particulier les États-Unis, le Brésil et le Mexique, aient été les plus touchés par l'épidémie devrait avoir démontré l'inefficacité des hommes providentiels et autres tribuns du vrai peuple, à la Donald Trump, López Obrador ou Jair Bolsonaro. Dans les trois cas, il y a eu une dramatique sous-estimation initiale de l'épidémie, une simple petite grippe pour Bolsonaro, suivie d'une contestation des mesures préconisées par les experts, sous prétexte de défendre les libertés de mouvement et de réunion. Trump a publiquement critiqué l'inamovible directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, le docteur Anthony Fauci. Il a désapprouvé les gouverneurs qui décidaient de confiner leurs États. Il a relayé les fausses informations présentant l'hydroxychloroquine comme un médicament efficace contre le coronavirus. Il a collaboré aux campagnes de désinformation tendant à présenter l'épidémie comme un complot ourdi par les élites pour justifier des mesures exceptionnelles. Alors comme l'écrit Yasmine Serran dans The Atlantic, la pandémie a permis aux populistes de faire ce qu'ils savent le mieux faire. Monter des campagnes contre ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, propager leur propre version des faits, et promouvoir la pensée conspiratrice au détriment des avis scientifiques. A contrario, on remarque que la crise sanitaire a renforcé la popularité des leaders issus de la classe politique traditionnelle. Angela Merkel en Allemagne, Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, Giuseppe Conte en Italie et chez nous, Emmanuel Macron, ont obtenu de bons sondages. Face à une crise grave, la compétence et la modération ont rassuré, quand l'outrance et l'agressivité alarmaient. Mais l'épidémie a aussi constitué, pour certains leaders populistes, une excellente occasion d'avancer leur pion. En Hongrie, on a vu Viktor Orban profiter de la situation pour se faire voter par une assemblée nationale hongroise aux ordres, le droit de gouverner par ordonnance et sans contrôle parlementaire. En Pologne, le parti Droit et Justice a profité de l'interdiction des rassemblements pour bloquer la campagne de l'opposition. En outre, comme le fait remarquer le Canadien Michael Ignatieff, certaines mesures prises pour contenir le développement de la pandémie ont contribué à crédibiliser les politiques préconisées par les partis populistes. En particulier, la décision de fermer des frontières, y compris entre pays membres de l'Union européenne, a démontré que l'État-nation continuait à apparaître comme l'ultime recours des populations en cas de crise majeure.
Mais Brice, peut-être faut-il distinguer entre les différents populismes. Ils n'ont pas tous préconisé les mêmes politiques.
C'est pourquoi le Tony Blair Institute for Global Change, un think tank anglais, donc, vient de publier une étude portant sur 17 pays où des partis populistes sont au pouvoir. Son auteur a étudié leurs réponses face à la crise sanitaire en distinguant deux critères. Ont-ils sous-estimé ou non la gravité du risque épidémique? Et enfin, leurs réponses politiques ont-elles été libérales et donc comparables à celles adoptées par les gouvernements non populistes ou au contraire illibérales comme celles des pouvoirs autoritaires à la chinoise? Contrairement à une idée reçue, la majorité des gouvernements populistes, 12 sur 17, n'a pas sous-estimé la gravité de l'épidémie. Seuls 5 leaders populistes ont commis cette erreur initiale. Trump, López Obrador et Bolsonaro déjà cités, mais il faut rajouter Loukachenko en Biélorussie et Daniel Ortega au Nicaragua. Sur les 12 populistes qui ont donc pris, eux, l'épidémie au sérieux, seule une minorité, là encore, a réagi de manière autoritaire, instrumentalisant la crise pour renforcer ses propres pouvoirs. Il s'agit de Orban en Hongrie, Modi en Inde, Duterte aux Philippines, Morawiecki en Pologne, Erdogan en Turquie. Cette étude permet aux auteurs de la note de distinguer trois catégories distinctes de populisme. Anti-establishment, culturel, socio-économique. Un progrès bienvenu pour tous ceux qui se plaignent que l'appellation populiste soit devenue un fourre-tout conceptuel au pouvoir d'élucidation décidément insuffisant. Mais ce que les populistes ont en commun, en tout cas, c'est d'une part une tendance à aggraver la polarisation idéologique au sein des nations tout en prétendant lutter pour leur unité. De l'autre, une capacité particulière à instrumentaliser à leur profit le mécontentement social. Or, comme le fait remarquer la politologue Nadia Urbinati, l'épidémie ayant provoqué un dramatique recul de la croissance, elle va se traduire par un niveau de chômage et une détresse économique qui ne peuvent qu'alimenter le populisme. Il faut donc s'attendre à une deuxième vague populiste.
Merci beaucoup Brice Couturier, enfin merci pour cette bonne mauvaise nouvelle, je sais pas. En tout cas, on peut retrouver votre chronique sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain vers 11h52, 11h53, comme chaque jour.